On va commencer comme ça sans micro. J'espère qu'un micro va pouvoir arriver pour que tout le monde m'entende. Sinon, ça va être compliqué pour le fond. Vous avez des écrans qui, voilà, vous arrivez à voir jusqu'au fond à peu près, avec des écrans qui reprennent l'image qui est sur le grand écran ici. Donc, cours du soir de physique. Attention, hein, je dis bien de la physique. Alors, ceux qui ont peur, ils peuvent encore ressortir, il est temps. De la physique qui va être... je vais discuter les deux théories de la relativité d'Einstein, la relativité restreinte, qui est une théorie de l'espace-temps, de l'espace et du temps dans une seule entité qui s'appelle l'espace-temps. Je vais vous dire comment cette chose-là est construite, en prenant des éléments, enfin en reprenant des éléments de films de SF, pas 50 films de SF ou 50 œuvres de SF, il y en a largement 50, mais je vais prendre deux ou trois exemples. Puis un exemple de la BD, là on voit Calvin et Hobbes, si tu ne connais pas Calvin et Hobbes, lisez Calvin et Hobbes, c'est très drôle. Et puis parler de relativité générale, qui est une théorie de la gravitation et qui finalement est un prolongement de la relativité restreinte. Donc il y aura de la physique dedans, je mets même des calculs pour ceux qui sont des durs, j'en ai vu un ou deux qui prennent des notes, qui revolent des trucs, donc il y aura un ou deux calculs pour dire que ça rigole pas ici, c'est la conférence du président, le cours du soir, on n'est pas là pour tricoter. Normalement il y a des choses que vous devriez comprendre indépendamment des calculs, les calculs étant juste là pour ceux qui veulent, vous les avoir entendus, les retrouver éventuellement, les retrouver après sur le web, dans des cours, dans des livres, et les autres vont comprendre ce qui se passe normalement sans calcul. Cette conférence-là, je peux la faire sans aucun calcul, juste sur les idées. Ça va reprendre un certain nombre de choses que j'ai déjà dit dans la conférence, pour ceux qui ont pu assister, dans la conférence d'introduction, la première conférence des Utopiales sur le voyage dans le temps. Simplement, cette fois-ci, on va rester sur la physique relativiste, réelle, c'est-à-dire celle qui fonctionne, et pas essayer de spéculer sur des choses plus subtiles, comme le voyage dans le temps. Donc sur cette image de Calvin et Hobbes, elle est très marrante, on la rediscutera tout à l'heure, je la montre, ça c'est juste Calvin et son tigre en peluche Hobbes, il est en peluche quand il y a des adultes, et dès qu'il n'y a pas d'adultes, ça devient un tigre vivant, et il fait des tas de plans avec lui. Notamment, il monte dans cette petite charrette rouge, et ils se disent, eh bien on va tester la théorie de la relativité. Alors l'idée, c'est ce qui est dit dans le texte, l'idée c'est que plus on va vite, plus le temps va lentement. Alors cette phrase, on va la discuter. Et donc il dit quelle heure il est, 10h23, il dit ben, quelle heure est-il maintenant, ben, 10h24, accélère. Et puis à la fin il dit maintenant on va vraiment à fond, et quelle heure il est, ben, 10h25, et le temps s'est toujours pas arrêté. Et puis à la fin il s'écrabouille, évidemment ils font une chute terrible, ils se ramassent lamentablement, ils disent bon ben, j'ai l'impression qu'Einstein c'est vraiment un charlot, il s'est trompé. Il dit mais non, il a raison, regarde maintenant le temps s'est vraiment arrêté, avec sa montre complètement explosée dans la main, et puis évidemment il ne fonctionne plus. Donc, on rediscutera de cette partie-là. Ça, c'est tout à fait dans une petite bande dessinée comme ça. Il y a des éléments qui réfèrent explicitement à la théorie de la relativité. Il y a d'autres éléments. Un autre, je vous cite, alors, vous allez voir comment ça se passe. C'est dans La planète des singes, le film de Franklin Schaffner de 1968, celui qui est le bon film, enfin, à mon sens, qui est le film avec une fin spectaculaire. Je ne vous spoil pas pour ceux qui l'ont vu. Juste, je vous spoil un peu le début, enfin, ce qui se passe au début. Et on a, vous allez voir, là, la petite scène qui est là.
J'ai bordé mon équipage, je relance un mail qui va me conduire jusqu'à la constellation d'Orion et je vais les rejoindre bientôt. Dans moins d'une heure, nous serons partis depuis 6 mois avec Cap Kennedy. Sur la Terre, ils sont en 2673, et sur le vaisseau, nous sommes en 1972.
Vous voyez, ça c'est déjà intéressant, il y a un cadran, il le dit oralement, mais il y a le cadran qui montre ce qu'il est en train de dire. Il y a le Earth Time, le temps de la Terre. On est le 23 mars 2673 sur la Terre. Ils sont partis il y a 6 mois. C'est un peu curieux. Parce qu'après, le Ship Time, en temps de vaisseau, ils sont encore en 1972. Au moment où est parti le vaisseau. Il semble que les dates, donc ça fait référence à une chronologie, que les dates ne soient pas les mêmes en Ship Time ou en Earth Time. Et il y a un décalage assez important. Et on verra plus loin dans le film. On ne va pas le voir là, mais dans le film plus loin, on apprend qu'en fait, il s'écrase sur une planète. Et au moment où il s'écrase, ça correspond à 3978 pour la Terre, alors que ce n'est que 1972 plus 18 mois. Le vaisseau n'a voyagé, pour les passagers du vaisseau, qu'une durée de 18 mois.
D'après la théorie du docteur Aslein.
Oui, le docteur Aslein, on sent qu'il y a une intention, hein, mais ce n'est pas le bon, mais c'est un peu ça l'idée quand même.
Dans un véhicule voyageant presque à la vitesse de la lumière, la Terre a vieilli de 700 ans depuis que nous l'avons quitté. Et que nous n'avons vieilli que de 6 mois.
Gros cigare.
Je viens de croire.
C'est pas bien de mettre les cigares comme ça. Dangereux dans les vaisseaux. Donc là, il réalise, voilà, il est en train de réaliser, dans le vaisseau, il se... Il fait comprendre finalement au spectateur que ce vaisseau qui voyage depuis 6 mois, en fait, s'est passé des centaines d'années déjà sur Terre, parce que d'après la théorie du docteur Aslan, le temps ne s'écoule pas pareil dans le vaisseau et sur Terre. Bon, cette phrase, elle est dite comme ça. On va voir quelle pertinence elle a, comment on peut la comprendre. En fait, elle n'est pas très correcte du point de vue de la physique. Néanmoins, elle a un sens. Je vois bien d'où ça vient. Alors, pour comprendre ça, je remontrerai un autre extrait de film tout à l'heure, d'un autre film, un film français de 1942, une fois qu'on aura fait déjà un petit tour dans la relativité restreinte d'Einstein, une théorie qui a été publiée en 1905. Et cette théorie est publiée en 1905, je ne vais pas raconter toutes les raisons pour lesquelles Einstein fait ses postulats, je pars des deux postulats qu'Einstein fait. Il élargit le principe de relativité galiléenne. Galilée, dans ses ouvrages 1638, quelque chose comme ça, nous dit que le mouvement est comme rien. Sous-entendu, le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne à vitesse constante est comme rien. Ça signifie, quand je suis, c'est l'exemple d'Einstein, de Galilée, dans un bateau qui se déplace en ligne droite à vitesse constante, sur une mer parfaitement calme, avec un vent parfaitement régulier, dans le bateau, tout ce que je fais, c'est exactement ce qui se passerait si c'était sur Terre, à quai, sur le sol, fixe, sous-entendu, fixe. C'est-à-dire, je jette des pierres, elles tombent dans ma main, les papillons volent normalement, les poissons dans le bocal, il y a un passage magnifique qu'écrit Galilée, pour arriver à comprendre que le mouvement est comme rien. Dans le bateau, aucune expérience de physique ne permet de vérifier que nous sommes en déplacement plutôt que immobile. Le seul moyen de le faire, c'est d'ouvrir la fenêtre et de voir qu'effectivement, par rapport à la Terre, nous sommes mobiles par rapport à la côte. Einstein élargit le principe de Galilée à toute la physique. À l'époque, physique, c'était la mécanique essentiellement. Là, il élargit à l'électromagnétisme et aboutit à la conclusion, qui est pour lui un postulat, mais qu'on n'est pas obligé de le mettre comme postulat. On pourrait reconstruire la théorie d'Einstein, cette théorie de l'espace-temps, complètement sur le seul premier principe. Ah, merci Samuel, super. Sur le seul premier principe. Et cette reconstruction permettrait d'aboutir à ce que Einstein appelle son deuxième postulat, qui est l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire la vitesse de la lumière prend la même valeur, 300 000 à peu près kilomètres par seconde, quel que soit le mouvement relatif de l'observateur et de la source. Ah, merci Samuel. Quel que soit le mouvement relatif de l'observateur et de la source. Ça veut dire que si je mesure la lumière, la vitesse de la lumière qui me vient d'une ampoule qui est ici, je vais trouver 300 000 km par seconde dans le vide. Et si maintenant cette source se déplace par rapport à moi, ou moi par rapport à elle, eh bien je vais trouver à nouveau 300 000 km par seconde. Ce qui est tout à fait contre-intuitif, puisque habituellement, quand on a deux objets qui se croisent, si je me déplace, si je suis en voiture, je me déplace par rapport à la route à 100 km par heure, je croise une voiture qui se déplace par rapport à la route, elle aussi à 100 km par heure, la vitesse de la première voiture par rapport à la deuxième, c'est 200 km par heure. Et quand vous doublez à 110 km par heure une voiture qui se déplace aussi à 100 km par heure, toutes les deux, ces deux vitesses comptées par rapport à la route, la voiture à côté de vous ne se déplace, ne semble se déplacer qu'à 10 km par heure. La différence des vitesses dans un cas ou la somme des vitesses dans l'autre cas. Et là, on voit que pour une source, pour de la lumière, on ne fait pas l'addition ou la soustraction de la vitesse de la source à la vitesse de la lumière, on trouve toujours 300 000 km par seconde. Ce qui est très contre-intuitif par rapport à ce qu'on appelle composition galiléenne des vitesses, qui est essentiellement une addition. Là, il y a autre chose, ça implique automatiquement autre chose de curieux. Alors, les conséquences immédiates de cette hypothèse, encore une fois, ce postulat n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de faire explicitement référence à la lumière dans cette théorie-là. Je pourrais élaborer plus longtemps, mais là, c'est les cours de relativité restreinte que j'ai commencé à donner à l'école polytechnique le 6, après les Utopias. Là, je démarre direct, je prends le train, pram, 9h, cours de relativité, amphi 1. Il y en a 8. Donc vous êtes convenus, enfin, c'est pas public, mais je pense qu'on doit pouvoir s'arranger. Il y a des conséquences immédiates. Une conséquence immédiate, si la vitesse de la lumière est invariante, c'est-à-dire la même, quel que soit l'observateur, je l'ai déjà montré, je le remonte, mais tout le monde n'a pas vu la conférence initiale, vous êtes dans un wagon, ça, il y a beaucoup d'expériences de pensée chez Einstein, il imagine une situation qu'il ne met pas en pratique, mais qu'il imagine, et qui lui permet de conclure des choses pertinentes. Eh bien, je suis dans un wagon, exactement au milieu, j'ai une source de lumière qui m'envoie un rayon lumineux à gauche, un rayon lumineux à droite, qui partent en même temps, ils arrivent, je suis au milieu devant, en même temps, c'est-à-dire l'événement, le rayon arrive en tête et l'événement, le rayon arrive en queue, sont simultanés. Ça, c'est si je suis dans le wagon, parce que j'ai choisi des conditions d'expérience comme ça. Si maintenant je regarde le wagon passer, je vais voir le rayon qui part vers la tête arriver après, parce que le rayon milieu doit rattraper le wagon. Et le rayon lumineux, sa vitesse par rapport à un personnage qui est sur le quai, qui voit passer le train, se déplace aussi à 300 000 km par seconde, la vitesse que constate aussi donc le personnage qui est dans le wagon, qui se déplace avec le wagon. Parce que la vitesse de la lumière est invariante, les deux événements qui étaient simultanés pour le personnage wagon, pour le contrôleur, ne le sont pas pour le cheminot qui est sur le quai. L'événement arrive en avant, arrive à l'arrière. Parce que dans un cas, le faisceau doit rattraper le wagon, même un TGV, la lumière y arrive rapidement, beaucoup plus vite que le wagon, bien sûr, mais de l'autre sens, le wagon, l'arrière du wagon s'approche du faisceau et donc ça arrivera après. Pour des wagons habituels, les écarts sont évidemment infinitésimaux. Mais il faut imaginer ça quand même, hein, ça veut dire, je le dis, la vitesse de la lumière n'est pas infinie, et elle est la même pour tous les référentiels. Quand on allume la lumière dans une pièce, n'imaginez pas que, bam, tout à coup, lumineux. À partir de la source de lumière, il y a une sphère de lumière en gros qui se propage et qui remplit petit à petit la pièce jusqu'à la remplir complètement et qu'elle rebondit sur les murs et que ça a une partie arrière à votre œil et vous dites « Ah ben c'est allumé ». Comme les distances sont petites et que la vitesse de lumière est grande, ça prend quelques dizaines de milliardièmes de seconde, donc imperceptible à nos sens, mais c'est ça qui se passe. La lumière ne remplit pas instantanément la pièce et là, dans l'occurrence, pour cette expérience-ci, on en déduit que la simultanéité de deux événements n'est pas une notion universelle. C'est-à-dire que ce que j'appellerais le présent, l'ensemble de tous les événements qui sont simultanés à un événement donné, par exemple, je me touche le bout du nez, il y a eu le présent de cet événement-là à un moment donné, eh bien, d'autres personnes, pas vous, parce que vous êtes à peu près fixe par rapport à moi, mais quelqu'un qui se déplace par rapport à nous va trouver un présent de cet événement différent. Parce que la simultanéité de deux événements n'est pas assurée pour tous les observateurs. Deuxièmement, la fameuse horloge à lumière, deux miroirs face à face, et la lumière fait des allers-retours entre le miroir du bas et le miroir du haut, et ça fait tic en haut et tac en bas. Donc tic et tac et tic et tac, ça fait une horloge, il n'y a qu'à les compter. Le principe détaillé, on s'en moque, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est pas très grave, le principe reste là. Encore, expérience de pensée. Alors, il y a tic, il y a tac, et quelle est la durée qui sépare les deux événements? L'événement, le rayon lumineux part d'en bas, de l'événement, le rayon lumineux est revenu en bas. Ben, si je suis avec l'horloge qui est devant moi, elle est fixe par rapport à moi, ou moi par rapport à elle, eh bien, il faut diviser la distance parcourue, le double de la distance qui sépare les deux miroirs, par la vitesse de la lumière, qu'on connote C habituellement, la vitesse de la lumière connote C. Donc, la durée qui a été mesurée, elle vaut 2L sur C, deux fois la distance qui sépare les miroirs, divisé par la vitesse de la lumière. Et cette durée-là, on la qualifiera de durée propre. Une durée propre, c'est une durée qui sépare deux événements qui sont vus, qui se produisent au même endroit. Alors maintenant, l'autre situation, c'est cette fois-ci, les deux miroirs se déplacent. L'observateur est fixe, plus exactement, ils sont mobiles, les deux miroirs et l'observateur ont une vitesse relative. On va considérer que l'observateur est fixe et qu'il voit les miroirs se déplacer. Ça pourrait être les miroirs fixes et l'observateur qui se déplace. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les miroirs se déplacer. J'observe ces deux miroirs se déplacer. Eh bien, le tic et le tac, ça fait tic et tac. Ben évidemment, parce que les miroirs sont déplacés, ils étaient là, ils sont là. Et moi, je vois la lumière frapper le miroir du haut, mais comme il s'est déplacé, ben, la lumière, j'ai l'impression qu'elle s'est déplacée sur le côté. Elle s'est déplacée sur le côté à la vitesse de la lumière, la même que quand je suis dans le repère lié aux deux miroirs. Quelle est la durée d'aller-retour? Ben, la distance D parcourue par la lumière, le double de ça, divisé par la vitesse de la lumière. Sans faire de calcul compliqué, on voit bien que dans un triangle, la diagonale ou l'hypoténuse est plus grande que les côtés, même que la somme des côtés, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Donc cette distance-là, D, elle est plus grande que L, et donc delta T prime, ce delta T prime est plus grand que delta T. Cette durée est plus grande. Je vais voir éthique, étac, éthique, étac. C'est ça que je verrai, le tic, étac, éthique, étac. Ce n'est pas la même durée. Cette nouvelle durée, que j'ai mis un prime pour la singularité, la distinguer de l'autre, ce n'est pas une durée propre, les deux événements à départ et arrivée ne se produisent pas au même endroit. Donc, notre définition, une durée propre, c'est les deux événements au même endroit, ce n'est pas une durée propre. Alors, petit calcul, on a ici la distance L entre les deux miroirs, pendant la durée delta T', les miroirs sont déplacés de V fois delta T'. Alors pendant la demi, juste un aller, un demi de V delta T'. Ici, j'ai un petit triangle rectangle, l'hypoténuse au carré, c'est ce côté au carré plus ce côté au carré. J'obtiens que delta T' égale un certain nombre, noté gamma, qu'on appelle facteur de Lorentz, qui dépend de la vitesse de relative entre les miroirs et moi, entre l'horloge et moi, équivaut 1 sur racine carrée de 1 moins V sur C au carré. V, la vitesse relative, C, la vitesse de la lumière, la même pour tout le monde. Donc on voit immédiatement que ce facteur gamma, il est toujours plus grand que 1. Il vaut 1 quand la vitesse relative est nulle. Évidemment, si on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, l'état des coups c'est delta t, c'est notre expérience, les miroirs sont fixes. Il vaut toujours plus grand que 1 quand la vitesse de la lumière, quand la vitesse relative s'approche de la vitesse de la lumière, cette quantité-là tend vers l'infini. Le delta t prime peut être infiniment aussi grand que l'on veut par rapport à delta t, il suffit de choisir une vitesse relative aussi proche que possible de la vitesse de la lumière. D'accord ? Et ce facteur gamma, on l'appelle le facteur gamma de Lorentz. Et donc la durée, tout à l'heure on a vu la simultanéité, c'était la durée nulle entre deux événements, ben, la durée tout court, et en particulier nulle pour la simultanéité, dépend de l'observateur. Alors évidemment, construire ce qu'on appelle le temps naturel, où on a notre mémoire et tout ça dans ces conditions-là, c'est assez difficile, puisque cette construction du temps se fait par accumulation de durées successives, une horloge par exemple, un pendule, le mouvement des planètes, mais ces durées, la valeur de ces durées qui séparent deux événements, le retour du Soleil au même endroit, ou de la Terre au même endroit par rapport au Soleil, ou des phases de la Lune, ou d'une horloge qui pendule, ça va dépendre de votre état de mouvement par rapport à l'horloge. Et donc, quelqu'un qui bouge par rapport à mon horloge va trouver une accumulation de durées qui vont lui définir un temps, une accumulation de durées, donc une chronologie, en accumulant les durées, ça fera la chronologie qui sera différente de la mienne. Et c'est là où on voit ce qui arrive dans le film. Dans le film, ils ont gardé les chronologies, mais en fait, la durée, ce qu'il faudrait dire, c'est la durée du voyage est bien dit oralement. On est parti depuis 6 mois. Durée du voyage jusqu'à présent, 6 mois. Durée sur Terre, 600 ans. Donc les durées, okay, dépendent, les durées mesurées dépendent de l'état de mouvement relatif des observateurs. Et on constate aussi que pour que cette racine carrée puisse être faite, on prend la racine carrée d'un nombre positif. Il faut que 1 moins V sur C au carré soit positif, il faut donc que la vitesse soit inférieure strictement à la vitesse de la lumière. Par ce raisonnement-là, on aboutit que si la vitesse de la lumière est invariante, et la même pour tous les observateurs, quel que soit leur état de mouvement par rapport à la source, alors c'est aussi la vitesse maximum qu'on peut atteindre. Et on ne peut pas l'atteindre strictement si on est un objet matériel. Donc ça sort tout seul de cette première propriété, comme je l'ai dit, de cette première sur les postulats, et comme je vous l'ai dit, ce premier postulat n'est même pas utile. On peut montrer faire une démonstration beaucoup plus générale que de la fête Einstein. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant, c'est trop long, ça serait un morceau d'un cours de relativité. Alors voilà la courbe qui donne le facteur de Lorentz, vous voyez un peu l'idée. Hein. Quand les vitesses, c'est 0% de la vitesse de la lumière, autrement dit, on est en vitesse relative nulle, bah, le facteur vaut 1, il est toujours plus grand que 1, puis regardez, ça monte très très vite. Donc quand on s'approche de la vitesse de la lumière, ce qu'on appelle dilatation des durées, ce rapport, ce facteur gamma qui nous donne le rapport entre la durée propre et la durée impropre, disons comme ça, mais une durée qui n'est pas une durée propre, eh bien, on obtient un truc qui croît très très vite vers l'infini, même si au début, vous voyez, quand on est à 10 ou 20% de la vitesse de la lumière, bon, sur le dessin, développé sur du trait, on est en gros dans 1. C'est encore en gros 1, même à 20% de la vitesse de la lumière, qui est déjà une vitesse assez considérable. Les vitesses des vaisseaux que nous fabriquons actuellement, des vaisseaux, si j'ose dire, des sondes, c'est plutôt un 10 000ème de la vitesse de la lumière. D'accord. Mais même à ces vitesses-là, et même à des vitesses beaucoup plus petites, de l'ordre du mètre par seconde, 1 mètre par seconde, la vitesse de la lumière c'est 300 millions de mètres par seconde, eh bien on mesure ces effets grâce aux horloges atomiques, ces effets de dilatation de durée. Autrement dit, je prends deux horloges fixes l'une par rapport à l'autre, parfaitement synchronisées, il y en a une qui part en voyage, je la fais marcher, quelqu'un la prend, il marche là, il fait un tour dans la pièce, il revient, hop, on la remet à côté, et on regarde les durées mesurées, elle mesure la première durée du voyage, l'autre la mesure la durée de son voyage, on les compare, c'est pas la même chose. À un tout petit milliardième, même moins que milliardième de seconde près, à un résidu infinitésimal près, que l'on sait mesurer grâce aux horloges atomiques, qui est des fractions. Si le voyage a duré une durée, mettons, 1 minute, vous avez baladé votre horloge à quelques mètres en marchant avec 1 ou 2 mètres par seconde, eh bien, vous avez quelque chose qui va être de 10 puissance moins 16 fois 1 minute, la durée d'écart. Et 10 puissance moins 16 fois 1 minute, ça n'est pas beaucoup de secondes. Et on sait mesurer ça avec les ondes atomiques actuelles qui ont des précisions relatives qui sont de l'ordre justement de 10 puissance moins 16. C'est-à-dire qu'elles savent mesurer 10 moins 16 secondes sur 1 seconde. Et donc sur 1 minute aussi. Donc ces horloges vont devenir ce que j'appelle les maîtres du monde. Parce que maintenant, On n'a plus besoin de définir des longueurs, on va définir des distances, on va définir des durées. Ce qu'on sait mesurer précisément, ce sont des durées. Ça, c'est la physique atomique qui nous permet de mesurer précisément des durées. Et on va rapporter les longueurs en durée-lumière. C'est plus un mètre. La définition du mètre, c'est la distance parcourue par la lumière en une durée égale à 1 sur 300 millionième, 1 300 millionième de seconde. Le mètre est la longueur que parcourt la lumière en une fraction infinitésimale de seconde, de sorte qu'on retombe sur le mètre ancien et que la vitesse de la lumière soit en gros 300 millions de mètres par seconde, précisément 299 792 458 mètres par seconde. La vitesse de la lumière maintenant est fixée par décret, Bureau international des poids et mesures, le mètre dépend de la seconde est fixée par les atomes. Pourquoi les atomes? Eh bien, parce que les atomes sont identiques entre eux, les horloges identiques, excusez-moi, vont mesurer des durées identiques, mais les atomes sont réputés identiques et des horloges identiques vont fonctionner de la même façon. Principe de relativité. Les atomes sont tous identiques, c'est l'hypothèse que font tous les physiciens. Il faudrait vérifier atome par atome qu'ils ne sont pas identiques. Ça prend un peu de temps. Mais ça se passe très très bien en les supposant tous identiques. Donc un atome est une horloge, l'autre atome c'est la même horloge. Je ne décris pas comment ça fonctionne pour utiliser un atome comme horloge, ça nous entraîne encore un peu loin. Mais au final, on va pouvoir faire des horloges fondées sur les atomes, extraordinairement précises, jusqu'à 5 10 puissance moins 16, ça veut dire que ça dévie ces horloges de moins de 1 seconde par milliard d'années. Donc c'est précis. Les Suisses, là, ils savent faire aussi les horloges atomiques, hein, mais ce n'est pas ce qu'on vous vend, évidemment, sur le marché. Et le mètre, voilà, ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus. C'est rattaché à la seconde. Et si on a pu faire ça, c'est parce que il y a implicitement derrière l'hypothèse que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. On n'a pas dit, décida que le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le lit par la lumière pendant une durée linéaire, à condition que l'observateur soit fixe par rapport à la source. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit, voilà, c'est ça. Ça veut dire que quel que soit votre état de mouvement par rapport à la source, la vitesse de la lumière sera toujours le mètre par seconde, ou le mètre sera toujours défini comme ça. Ce sera toujours la même longueur qui sera obtenue. Alors, la question qui se pose maintenant, si les horloges sont les maîtres du monde, comment est-ce qu'on fait pour se repérer avec des horloges? Ça, c'est un point important pour comprendre comment fonctionne le GPS. Alors, se repérer avec des horloges, on va supposer deux horloges fixes. Elles sont fixes, posées, on sait où elles sont. Premier cas, simple. Vous êtes au milieu, vous êtes le bâton au milieu, vous ne connaissez ni la distance D1, ni la distance D2, vous savez que vous êtes entre les deux, vous connaissez la distance D1 plus D2. Vous connaissez la distance entre les horloges, vous avez la carte des horloges. Est vendu avec les horloges, vous avez la carte des horloges de référence. Les temps, elles sont séparées de 10 minutes lumière. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous observez les deux horloges. Et ces deux horloges, c'est pas n'importe quoi, ce sont des bornes à radio qui émettent leur heure. Elles émettent les durées, elles émettent des tops de synchronie. Toutes les secondes, elles émettent bip, 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 bip. Et ces deux horloges ont été préalablement, on va voir comment, synchronisées. Vous recevez le signal d'horloge, et vous recevez le signal de l'une avant le signal de l'autre. Évidemment, l'horloge qui est plus proche, elle va recevoir un signal plus tôt. Donc, quand vous recevez simultanément deux choses, elles ne sont pas parties au même temps pour arriver simultanément. Vous pouvez facilement constater là la coïncidence de l'arrivée de deux signaux. Et vous lisez l'indication horaire de chaque horloge, et vous constatez que celle-ci a émis 2 minutes plus tard. Donc ce que vous savez, ce que vous connaissez, c'est finalement la différence des temps d'émission entre les deux horloges. On connaît la somme des deux distances et on connaît la différence des temps d'émission qu'on peut traduire en distance en multipliant cette différence de temps par la vitesse de la lumière. Et vous avez donc une distance que vous connaissez entre les horloges de 10 minutes lumière, ça c'est la somme des distances qui vous séparent de chaque horloge, et la différence des distances entre chaque horloge, vous la connaissez par la différence des temps d'émission. Chaque horloge construit son temps par accumulation de durées successives, et comme ces horloges sont fixes l'une par rapport à l'autre et qu'elles sont synchronisées, elles vont construire le même temps. Et vous obtenez la somme et la différence de deux quantités, un système de deux équations à deux inconnues qui se résout facilement. Si vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Et la réponse, c'est 6 minutes lumière pour la première distance et 4 minutes lumière pour la seconde. Vérifiez que ça fonctionne. 6 et 4, 10. 6 moins 4, 2 minutes lumière.
Donc vous pouvez vous repérer, vous savez où vous êtes, mais vous avez déjà un réseau d'horloges qui est là, prêt à fonctionner, qui vous est utile, qui sont fixes, toutes les unes par rapport aux autres. Alors qu'est-ce qui se passe si on veut représenter ça maintenant dans ce qu'on appelle l'espace-temps? Cette notion de espace-temps, elle arrive parce qu'on voit que les durées dépendant de l'observateur, eh bien, il va falloir maintenant considérer qu'on ne va pas écrire le temps d'un côté, et puis tout le monde a le même, et puis l'espace de l'autre, et puis on discute. Non, c'est, il y a un temps qui est construit par accumulation de durées, et que ces durées étant pas les mêmes pour deux observateurs en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre, ces temps ne seront pas les mêmes. Et du coup, il va falloir définir un espace-temps qui est lui pour cet observateur, et pour un autre observateur, ça sera autre chose. En général, on met une dimension d'espace horizontalement et une dimension de temps, quadrillée là, de sorte que ça passe bien. Les longueurs, c'est le pas, c'est une minute lumière, et les intervalles de durée que j'ai mis, une minute. Ce qui veut dire que la lumière se déplace de une minute lumière par minute, elle avance sur les diagonales. Pourquoi avancer sur la diagonale? Quelqu'un de fixe ne bouge pas dans l'espace, il se déplace dans le temps s'écoule, vous ne bougez pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes des spaghettistes à ce temporel, là, vous ne bougez pas, vous êtes un réseau de personnes à peu près régulier, pour ceux qui sont assis sur l'échelle, et vous vous déplacez, j'imagine que la troisième dimension est l'espace, et le temps, vous vous déplacez dans le temps en restant fixe dans l'espace. Deuxième horloge, elle est ailleurs, pareil, sa ligne d'univers est fixe, elle est verticale, elle se déplace dans le temps sans bouger dans l'espace. La ligne d'univers de l'observateur, qui lui aussi fixe, pour l'instant tout le monde, personne ne bouge, la vie est belle, et il reçoit deux faisceaux lumineux, qui arrivent en même temps, et qui sont émis à des instants différents. Voilà la représentation spatio-temporelle de ce qu'on a décrit. Je reçois deux faisceaux lumineux en même temps, ils sont partis à des instants différents, et ils sont partis de lieux différents, de distances, ils ne le séparent, ils se sont séparés de ces horloges, de distances différentes. Alors maintenant, la question, c'est comment on synchronise deux horloges? Parce qu'il a fallu synchroniser ces horloges. Comment je fais ça? C'est pas si simple. Parce que si vous avez une horloge qui est une horloge, l'horloge maître, qui dit, ouais, ici, c'est midi. Elle les voit sur un signal, elle dit, c'est midi, c'est midi, c'est midi, c'est midi, c'est midi. Mais quand ça arrive là-bas, il n'est plus midi. Comment on fait? Et vous pouvez vous déplacer vite, mais le plus vite, ça sera la vitesse de la lumière. Et voilà. À 300 km, il y aura déjà une seconde d'écart. Une question importante, c'est cette question que s'est posée Einstein sur les problèmes de synchronisation. Il travaillait au bureau notamment sur les problèmes de synchronisation des horloges dans la ville de Berne et des horloges pour les trains. Comment on synchronise les horloges? Il y a une horloge muette qui donne l'heure et puis les autres, comment elles font? Eh bien, c'est pas compliqué, ces horloges discutent entre elles en permanence. Elles s'envoient des signaux lumineux, l'horloge 1 envoie un signal lumineux à l'horloge 2, non de radio, c'est de la lumière la radio, et l'horloge 2, elle prend le signal qui est arrivé, elle le renvoie. Et chaque fois, ces horloges, n'oubliez jamais, elles envoient une information, l'heure qu'elles fixent, le temps qu'elles construisent par accumulation de leurs durées propres successives. Elles sont fixes par rapport à l'autre, donc normalement elles accumulent des durées propres égales, mais elles ne sont pas forcément synchronisées. Elles ne s'indiquent pas forcément la même heure, elles ne sont pas au même endroit dans leur accumulation. Et puis quand elle reçoit, elle renvoie, et celle-ci, elle a donc deux durées, la durée d'émission, l'époque de réception. Plus exactement, elle a mesuré une durée qui sépare deux événements, la réception du signal de retour et l'émission du signal aller. Elle mesure une durée. Et elle possède l'heure de réception de H2 qui lui émet, qui lui donne ça en bonus. Pour renvoyer facilement, c'est un miroir. Si vous mettez une petite info dessus, vous lisez, bloc, et vous renvoyez. Ça se fait techniquement, c'est pas très difficile. Les deux horloges sont synchronisées, dit Einstein, si le temps de réception, c'est la demi-somme des temps d'émission et de réception à l'horloge de départ. D'accord? Et comme ça, les horloges discutent, et puis elles savent si elles sont synchronisées ou pas. Exemple, vous émettez à 10h, vous recevez à 10h06, c'est parti à 10h, 10h06. Et là-bas, elle vous dit, moi j'ai reçu à mon heure à moi, c'est 10h05. Mon accumulation, je vais dire heure, comme si ce temps existait, mais c'est un temps que ces deux horloges peuvent partager parce qu'elles sont fixes l'une par rapport à l'autre. Donc cette accumulation, ces durées sont les mêmes, mais l'empilement des durées ne donne pas la même chronologie. Eh bien, je fais la demi-somme, ça fait 10h03, pas 10h05. J'en déduis que H1 retarde 2 minutes par rapport à H2. Je mets 2 minutes et c'est bon. Et je continue, en permanence. Donc, un réseau d'horloges synchronisé, ça permet, synchronisé comme ça, donc ce n'est pas les horloges bêtes qui donnent l'heure et puis c'est marre. elles s'incruisent en permanence entre elles, elles discutent entre elles en permanence. Vous, vous êtes au milieu de ça, vous sortez votre machin. Ah, j'ai reçu en même temps deux signaux dans le tatata. Et voilà, je déduis où je suis par rapport à ces horloges. Je suis à la distance de celle-ci, à cette distance de celle-là, et après sur ma carte, j'ai atteint un point unique. Si je suis à une dimension, il me faut deux horloges. Pourquoi deux ? Bien parce que je suis dans l'espace et dans le temps. Ça me donne l'heure aussi. Avoir l'heure et la position, à une dimension d'espace, il faut deux informations, deux horloges. Si vous êtes à deux dimensions, trois horloges. Il faut deux distances dans l'espace et une dans le temps. Deux informations spatiales, une temporelle, il faut donc trois horloges. Quand on est à quatre dimensions, trois d'espace, une de temps, il faut quatre horloges. Le GPS, il faut voir au moins quatre satellites du réseau GPS. À moins de quatre, si vous n'en voyez pas quatre dans votre horizon, vous êtes foutu, il est perdu, il ne peut pas vous dire où vous êtes. Parce qu'il vous donne votre position, latitude, longitude, altitude, plus votre temps, l'heure. On s'en fout en général, personne ne regarde l'heure. Vous avez l'heure atomique dans le, sans avoir d'horloge atomique. Vous avez l'heure atomique dans le GPS. Tout le monde s'en fout, mais ça, c'est inutile, on s'en fout la nanoseconde. Mais vous avez ça en bonus. Alors, synchroniser deux horloges, voilà le diagramme espace-temps, la première horloge, la deuxième horloge, elle envoie un signal, le signal est arrivé, vous voyez que la lumière se déplace dans les diagonales, les gars qui ne bougent pas, les horloges qui ne bougent pas, et ben, c'est des lignes verticales, fixes dans l'espace, se déplacent dans le temps. Et vous avez dit que cet événement-là, qui est la moyenne de ces deux-là, il est synchrone avec celui-là. Donc les lignes pointillées et tracées, vous dites, vous m'avez cru, parce que voilà, j'ai une bonne tête, vous me faites confiance. Mais en fait, j'aurais pu effacer complètement tout. Ne reste plus que le mouvement, la ligne d'univers, en disant le temps c'est plutôt vers le haut et l'espace c'est plutôt horizontalement. Ligne d'univers, ligne d'univers, clac, clac. Et je définis une ligne de simultanéité de cet événement avec ma ligne d'univers. Et deux événements sont simultanés, ça me définit mes lignes de temps, des équitemps, c'est-à-dire les lignes pointillées horizontales que j'ai tracées comme ça parce que vous m'avez cru. Mais elles ne se tracent pas. Elles se construisent les unes après les autres, par échange de signaux lumineux entre les horloges. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour dater et situer un événement, voilà votre ligne d'univers, vous déplacez là-dessus, vous ne bougez pas essentiellement, puis là-bas, il y a un truc, vous voulez le dater, par exemple, monsieur, là-bas, je veux le dater, au moment où il cartonnait. Ben, je ne sais pas, j'envoie un signal lumineux, il me le renvoie, plutôt mon horloge envoie, son horloge me renvoie, ben voilà ce qui se passe. L'événement, il est là-bas, moi je suis ici, quelque part par là, je veux dater et positionner cet événement, j'envoie un signal lumineux, il me le renvoie, et bien qu'est-ce que je fais? Le temps, l'étiquette temps que je vais attribuer à la réception du signal, c'est la demi-différence, la durée qui sépare la émission de la réception. Et l'étiquette, la moyenne de la durée de l'émission de la réception. Et quant à la position, et bien ça va être la demi-différence. Le temps d'aller, la durée d'aller-retour divisée par deux, aller-retour, c'est la même chose, ça n'avait rien à changer, il n'a pas bougé, tout s'est bien passé. Et je peux dater un événement, le positionner dans l'espace-temps par échange de signaux lumineux. J'envoie, ça revient, ça reste tout théorique pour l'instant, mais c'est ça que vous faites en pratique, enfin, je vais venir tout de suite avec les GPS, c'est exactement ça qu'on fait, quoi. Le GPS, il parle par onde radio en permanence aux satellites qui lui répondent, et l'autre, il dit, bah, vous êtes là. Et ça se fait vite. Les calculateurs vont vite maintenant. C'est pas un truc qui prend des plombs. Mais le problème, c'est que les horloges du GPS, elles sont en orbite autour de la Terre. Et donc, elles bougent par rapport à vous. Et pas un peu. Elles bougent à peu près 7 km par seconde. C'est emmerdant. Parce que les synchroniser entre elles, ben, les satellites discutent l'un par rapport à l'autre, et blablabla, ils se discutent et ils synchronisent. Tout va bien. Mais ils bougent par rapport à vous. Tout à l'heure, on a dit que le réseau, c'était un truc qui ne bouge pas. Et là, il bouge. Vous, vous bougez par rapport à eux, c'est comme vous voulez. Il y a une vitesse relative. Et bien, cette fois-ci, la synchronisation, elle se fait comment? Le premier satellite qui bouge par rapport à vous, alors il fait une unité de longueur en trois unités de temps, ça veut dire que sa vitesse est un tiers de la vitesse de la lumière. J'ai pris un satellite un peu costaud, il est sûrement pas en orbite autour de la Terre, celui-là. Un autre satellite qui bouge, voilà les deux horloges. Les deux horloges vont se synchroniser, ben, elles échangent des signaux lumineux. La vitesse de la lumière est la même tout le temps, ça veut dire que ça se déplace toujours, tout le temps, sur les diagonales de mes petits carrés. Pif pof. Alors, synchrone à cet événement, c'est quoi pour moi? Et c'est compliqué, c'est pas cette durée-là et cette durée-là, et je dis c'est la moyenne d'entre les deux. Non, et non, et non, et non, et non. Parce que les durées chez moi et les durées chez eux, c'est pas les mêmes.
Donc trouver l'événement synchrone pour moi à celui-ci, c'est pas celui qui est en face, quoi, en lisant sur les pointillés, comme on l'a fait quand tout le monde était fixe. Parce que les durées, c'est pas les mêmes pour elle et pour moi. Elles vont battre des secondes identiques aux secondes de mes horloges, mais l'accumulation de durée qu'elles vont faire, c'est pas la même. La simultanéité, c'est pas la même pour elle et pour moi. Et donc l'événement, on peut montrer qu'il est là. En fait, à mi-distance, le long de la ligne, c'est ici l'événement synchrone avec celui-là. Mais pour moi, ils ne sont pas synchrones, cet événement-là. Et cet événement-là, pour moi, ils ne sont pas synchrones. Ils ne sont pas sur la même ligne temporelle horizontale, qui est ma ligne de synchronicité. C'est-à-dire, on revient par un diagramme espace-temps de dire deux événements synchrones pour l'un ou simultanés pour l'un ne le sont pas pour l'autre. Alors, prenons le cas des jumeaux, le fameux cas des jumeaux. Deux jumeaux, un qui reste sur Terre, l'autre qui part. Alors c'est parti, Alice est immobile sur Terre. Bon. Son référentiel, c'est celui que j'ai tracé, ses lignes synchrones, c'est ça. Deux événements sur la même ligne horizontale sont synchrones, sont simultanés. Bob, il part, il revient. Bob, il va voyager à là, sa vitesse, on la voit là-dessus, il fait 1, 2, 3, 4 espaces, on fait 1, 2, 3, 4, 5 temps, sa vitesse est 4 cinquièmes de la vitesse de la lumière. Bob, il envoie. Donc 4 cinquièmes de la vitesse de la lumière. Son facteur gamma, le facteur de Lorentz, on calcule 1 moins V sur C, c'est 4 cinquièmes, V sur C au carré, ça fait 16 25e, 1 moins 16 25e, ça fait 9 25e, racine carrée de 9 25e, c'est 3 cinquièmes, l'inverse de 3 cinquièmes, c'est 5 tiers. Je suis ? Vous me croyez ? Ça fait 5 tiers. Ça, c'est son facteur gamma. Ça veut dire le rapport des durées mesurées par Bob et par Alice, il y a un rapport 5 tiers. Donc Alice, elle va trouver une durée de voyage 5 tiers de fois celle de Bob. Alors elle va trouver, par exemple, 10 ans dans son référentiel. Bon, ben, j'ai pris 10 ans, c'est parfaitement arbitraire. Bob voyage à 4 cinquièmes de la vitesse de la lumière pendant 10 ans, ben, elle va le voir s'éloigner de 4 années-lumière, puis revenir. Bob, il a fait un voyage sur la fin du Centaure, en gros. Mais Bob, le voyage, combien est-ce qu'il vaut ? Ben Bob, lui, le problème, c'est que gamma fois les temps de Bob, les durées de Bob, c'est les durées d'Alice. Donc Bob, il va trouver la durée d'Alice divisée par gamma. Et comme gamma vaut 5 tiers, ben, ça fait 6 ans. Donc lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça dure 6 ans pour lui. Ça, c'est parce que les lignes d'univers n'ont pas les mêmes longueurs selon le chemin que l'on suit. De la même façon que les lignes spatiales, pour aller d'un point à un autre, eh bien là... La longueur de la ligne que vous parcourez va dépendre du chemin que vous suivez. Si vous allez de Paris à Marseille en passant par Lyon, vous êtes à Marseille en partant de Paris, gagnez. Ce n'est pas le même chemin que si vous passez par Bordeaux. Paris, Bordeaux, Marseille. Ça marche aussi, c'est plus long. En kilomètres, en durée éventuellement. Ça, c'est un autre problème, ça dépend de votre vitesse. Mais en kilomètres, c'est plus long. Donc la distance géométrique qui sépare deux points, ça dépend du chemin que l'on suit. Et bien dans l'espace-temps, la durée propre qui sépare deux événements, ça dépend du chemin que vous suivez. La durée propre, pourquoi ? C'est cette quantité-là qui va mesurer la longueur d'une ligne spatio-temporelle. Voilà ce qu'on peut dire. C'est la durée propre de la ligne. Autrement dit, la durée que mesure une horloge qui suit cette ligne d'espace-temps pour aller de l'événement de départ à l'événement d'arrivée. Et cette durée propre dépend de la longueur suivie. On peut se rendre compte, si on essaie de se dire, quel événement d'Alice est simultané à celui-là pour Bob ? Ça, c'est un événement de Bob, c'est un an de Bob. Là, c'est un an de Alice. Quel événement est simultané avec un an de Bob ? Donc, on peut les tracer. Voilà l'événement simultané avec un an de Bob, c'est celui-là. L'événement simultané avec deux ans de Bob, trois ans de Bob. Donc quand Bob il est arrivé déjà là-bas, les événements simultanés à tous ceux que Bob a vécu, ils sont là-dedans. Et après Bob il revient. Ben, on peut calculer aussi quels sont les événements simultanés. Ben, regardez, il y a un bout là. Tout ce bout là, c'est cet événement de retournement supposé instantané. Pratiquement, il y a accélération, décélération, bien sûr, mais cet événement-là, je me retourne une fois que je suis arrivé à la fin du temps, hop, je fais demi-tour et je repars instantanément à la vitesse opposée, la vitesse contraire, eh bien, c'est simultané, en fait, avec tout ça. Après, il ne faut pas se demander pourquoi il y en a un qui trouve 6 ans et l'autre 10 ans, quoi. Il y en a un, juste dans la fraction de seconde infinitésimale, peu probable, évidemment, en pratique, pendant laquelle il se retourne, il s'est passé toute cette durée pour elle. C'est une question de simultanéité des événements qui n'est plus assurée. Donc la durée propre de la longueur, c'est-à-dire si vous faites de départ à arrivée en suivant la ligne d'univers d'Alice ou la ligne d'univers de Bob, ça n'a pas la même longueur. Cette longueur, c'est la durée propre. Et la durée propre de Bob, c'est 6 ans, et celle d'Alice, c'est 10 ans. Voilà, c'est juste énervant. Pratique pour voyager dans le futur.
Bob voyage dans le futur d'Alice. Il aura physiquement vieilli de 6 ans. Si son cœur est une horloge atomique, qu'il n'est pas, mais il va battre 6 ans, son cœur bat, le cœur est une manière d'horloge. Ben, il va battre les mêmes secondes, c'est-à-dire si vous avez un cœur qui bat exactement à 60 pulsations par minute, une par seconde, ben, le cœur de Bob, pareil, les deux mêmes cœurs, les deux mêmes horloges, ben, il y en a un qui va compter moins de secondes. Les secondes ne sont pas plus courtes, le temps ne ralentit pas, non. Comme on compte moins de mètres quand on va de Paris à Marseille par Lyon que quand on va de Paris à Marseille par Bordeaux, on compte moins de secondes quand on va de départ de la Terre à retour sur la Terre en ne bougeant pas ou en passant par Alpha du Centaure. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. La chronogéométrie, la géométrie de l'espace-temps, n'a pas les mêmes propriétés que la géométrie. Et tout raisonnement qui se fonde sur des idées géométriques a faux. Mais par exemple, si c'était de la géométrie, vous avez un grand triangle là, la longueur en mètres ici, elle est forcément plus courte que la somme des deux autres. La longueur d'un côté d'un triangle est plus petite que la somme des deux autres longueurs. Ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Eh bien, en chronogéométrie, l'inégalité triangulaire est renversée. Un triangle dans l'espace-temps, la somme des deux côtés est plus courte, au sens moins de durée propre que le troisième. D'accord ? C'est tout ce qui fait les emmerdements, paradoxes des jumeaux. Non. C'est une autre façon de mesurer les distances dans l'espace-temps, et plus dans l'espace tout seul. Alors, comme je vois que je vais être à la bourre si j'avance pas un peu, je reprends l'image de Calvin de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Calvin ? Ben, il se dit, l'idée c'est que plus on va vite, plus le temps va lentement. Comme c'est une vitesse d'écoulement du temps. Mais la vitesse, c'est le déplacement dans l'espace compté dans le temps. Donc, déplacer dans le temps par rapport au... Vous allez à une vitesse de 1 seconde par seconde, tout le temps, si j'ose dire. Où que vous soyez, quel que soit votre état de mouvement. Ça, c'est le principe de relativité. Les horloges vont battre les mêmes secondes. Si elles sont identiques, elles battront les mêmes secondes. Donc, là, ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce qu'il aurait dû faire pour vérifier si la relativité fonctionne ou pas, c'est Hobbes reste au bord avec son chronomètre. Calvin va dans son bolide avec son chronomètre. Il fait un grand tour à fond la caisse dans son bolide. Il revient près de Hobbes. Il compare les durées mesurées par chacun des deux chronomètres préalablement synchronisés et réputés identiques. Ils auraient trouvé des distances, des durées différentes. Alors que là, dans son truc, il va mesurer le temps s'écoule. Les secondes sont les mêmes secondes qu'il a toujours constatées. Ça, c'est le principe de relativité. La physique est la même dans tous les référentiels et... La physique qui fait fonctionner les horloges en particulier. Et donc les horloges battront les mêmes secondes si elles sont identiques. Donc à ce point-là, il aurait fallu qu'il compare la durée de son voyage dans son bolide avec une horloge qui aurait mesuré la durée du voyage qui serait réputée fixe, qui serait restée immobile sur le sol. Alors revenons sur une deuxième page culturelle, Croisière sidérale. C'est un film qu'on pourrait projeter un jour au Utopia, d'ailleurs, on va demander à Fred Temps, un film rare. 1942, de la science-fiction française de 1942, tournée à Paris. Vous voyez l'ambiance à Paris en 1942, c'est mon trigger. Hein. Donc, il sort ce film-là. Et là, il y a, après un voyage de 15 jours dans l'espace, je ne vous raconte pas toutes les péripéties, c'est génial, la jeune femme qui est partie, une scientifique, c'est plutôt remarquable, une femme scientifique dans un film de 1942, même maintenant, on n'en voit pas toujours, son mari, scientifique lui aussi, qui est empêché, il s'est foulé la cheville. Elle part quand même en voyage faire l'expérience, c'est très important, c'est une expérience fondamentale. Elle part, elle fait la manip, et il y a un problème, lui le guignol qui est ici, là, il fait des problèmes. Et puis le ballon stratosphérique qu'elle emprunte, va très 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 vite dans l'espace. Elle voyage 15 jours, ce qui leur apparaît pour eux 15 jours. Ils rentrent sur Terre, c'est très bizarre, il y a des trucs bizarres, des véhicules bizarres qui se déplacent. Elle retourne à l'institut de physique auquel elle travaille, auquel elle appartient. Elle demande à voir le directeur, et elle voit un vieux type qui arrive, et le vieux type, elle réalise que c'est son mari. Mais un vieux type, d'ailleurs, pas super vieux, mais il a 25 ans de plus quand même. La durée du voyage, 25 ans pour la Terre, 15 jours pour la voyageuse. On est exactement dans ce qu'on vient de dire. Exactement, c'est impeccable. Dans le cas du film de la planète des singes, il y a une chronologie qui est indiquée. Mais ce qui est dit dans les phrases, donc chronologie, c'est-à-dire une construction du temps par accumulation de temps. Mais ce qui est dit, 6 mois sur Terre et 600 ans sur... 6 mois sur... Ok. Dit en durée, ça se passe très bien. On a le facteur gamma. D'ailleurs, on va le déduire. Et regardez ce qui se passe. Ils se rencontrent dans l'institut. la jeune femme réalise et le, que c'est son, lui, son mari, reconnaît sa femme réalise que, ah oui, oui, bien sûr, le vieux type, c'est son mari. Et il lui dit...
Je crois que j'y suis. Je crois que j'ai compris. Oh, si c'est vrai, c'est à n'y pas croire.
Donc d'abord, vous voyez, il vous balance des équations dans un film. C'est rare. Je précise, elles sont parfaitement justes. Il n'y a pas une faute. Les notations sont un peu des 1. C'est parfait. On ne discute même pas, c'est impeccable.
Votre ballon a passé 2 semaines hors du monde terrestre. Sauf que vous avez vécu 2 semaines dans le monde sidéral.
Je comprends pas.
Mais si tu vas comprendre, chérie, c'est très clair. Enfin, vous êtes monté, puis vous êtes redescendu.
Oui.
Mais pendant ce temps-là, vous avez changé de système de référence.
Parfait. Parfait.
Vous avez vécu 2 semaines dans un autre temps.
Les formules de Lorentz ?
Oui, les formules de Lorentz, les équations.
C'est les équations de Lorentz qui passent, qui permettent de passer des coordonnées spatio-temporelles d'un événement compté dans mon référentiel au même événement compté dans l'autre référentiel de quelqu'un qui bouge par rapport à moi. Maintenant, la question, c'est comment je change de coordonnées. Détail. Les formules sont parfaitement exactes. Elles s'appellent formules de Lorentz. Pas Dr. Aslein, hein. Là, il bricolait un peu tout à l'heure. Là, c'est exact, c'est nickel, c'est vraiment remarquable.
Lorentz s'applique intégralement. Oh, ça, c'est magnifique.
Alors, le gars, il est content. On voit le scientifique un peu dingue. Demain, je serai... Comment dire, comme dans Tintin, là. Il prédit la fin du monde demain. Demain, je serai célèbre. Attends, mon ami. Si c'est la fin du monde, il y aura qu'un tas de morts pour te fêter. Et toi, y compris. Et là, il dit, ouais, c'est génial. Les formules, ça marche. La science, c'est super.
Tu comprends, votre ballon est allé si vite et si loin que vous êtes sorti du système solaire. Alors, vous avez passé là-haut 2 semaines. 2 semaines pour vous. Super. Mais pendant ce temps-là, notre pauvre père a vieilli, elle, de 25 années.
Et
ton pauvre mari, lui aussi, a vieilli de 25 années.
Eh oui, merde.
Donc ça, c'est embêtant, quoi.
Il y a un vieillissement différentiel, clairement. Parfait. Cette scène est parfaite. Voilà, il n'y a rien à dire. Impeccable. On peut, d'ailleurs, je m'en sers dans mon cours de relativité, à la fin, pour les égayer, parce que on n'est pas là pour rigoler. Donc, cette scène est parfaite, et quand on voit 15 jours, 25 ans, bon, 25 ans, c'est peut-être 25 ans, 6 mois, 3 jours, bon, mettons 15 jours, 25 ans, eh bien, le facteur gamma, c'est 25 ans sur 15 jours. 25 ans en jour, ben, il y a 365 jours par an, à peu près. 25 fois 365 sur 15, ça fait un facteur gamma de 608. Et un facteur gamma de 608, ça veut dire que la vitesse de la lumière était presque atteinte à un millionième près. La jeune femme dans son ballon stratosphérique, l'air de rien, elle a voyagé à 0,99999 de la vitesse de la lumière. Boum boum. Donc voilà. Mais même si les valeurs numériques ont l'air un peu ridicules, bah, pas du tout adapté à un ballon stratosphérique, qui était adapté pour autre chose. C'était l'époque aussi où on lançait beaucoup de ballons stratosphériques pour mesurer, en tout cas un peu avant la guerre et puis ensuite après, pour utiliser ce qu'on appelait, qui avait été découvert en 1918. Non, 1914, les rayonnements cosmiques, les particules chargées de haute énergie qui viennent de l'extérieur de la Terre. Et donc on montait en ballon pour faire des mesures sur ces flux de particules cosmiques, comme on les appelle. Si on prend maintenant le film Avatar, le beau vaisseau, on pourra en discuter une demi-heure, c'est un très beau vaisseau. Très beau esthétiquement, mais aussi intelligent. Enfin, pas beau, il est doté physique. Il est intelligemment construit. Il ne ressemble pas à Star Trek. Hein. Alors, Jacques Sully nous dit au début du film... Le voyage a duré 5 ans, 9 mois, 22 jours. Ils sont partis de la Terre, ils ont été près d'Alpha du Centaure, ça tombe bien, c'est notre cas tout à l'heure. 4 années-lumière, un peu plus, 4,37 années-lumière. Le vaisseau, évidemment, il a accéléré, décéléré. C'est pas un vaisseau magique, hein, comme tout à l'heure, où le demi-tour de Bob, c'est instantané. C'est une approximation. Ça ne change pas le raisonnement, ça ne change pas la réponse. Ça change que les conditions de destruction de Bob. Si vous changez instantanément de direction, vous avez une accélération infinie, vous êtes écrabouillé en bouillie. Alors là, pour ne pas les écrabouiller, ils ont accéléré, probablement accéléré, mettons à une gravité terrestre, parce que, évidemment, une gravité terrestre, les passagers se sentent mieux. Puis après, ils ont peut-être une pleine à vitesse constante, peut-être, et après, ils ont décéléré, mettons, à une gravité terrestre. Donc j'ai pris une durée d'accélération, une durée de décélération identique, et puis une durée de vol de croisière. Donc il y a deux inconnus, la durée du vol de croisière et la durée commune, accélération ou décélération. Deux inconnus. J'ai deux valeurs que je connais. La distance qui me sépare d'Alpha du Centaure, 4,37 années-lumière, et 5 ans, 9 mois, 22 jours, que je peux considérer, puisque c'est un passager du vaisseau qui parle, la durée du voyage mesurée par les passagers. Je déduis la durée d'accélération la durée de décélération, là c'est des choses dont je n'ai pas parlé, comment je gère l'accélération relative terrestre, et ça se calcule, et voilà le plan de vol. Si on suppose que le vaisseau donc, accélère, décélère, et reste à vitesse constante entre les deux, avec une accélération de 1G, oui c'est à peine lisible, eh bien, en durée du vaisseau, il va accélérer 0,766 ans, décélérer pendant la même durée, il va rester en vol de croisière pendant 4,26 ans de durée du vaisseau, de l'horloge du vaisseau, pour aboutir aux 5,8 ans, 5 ans, 9 mois, 22 jours, 5,8 ans, pile. Et puis par contre, en durée terrestre, ben, c'est plus long, 7,36 ans. On constate, on aurait dit d'ailleurs spontanément, sauf que là on l'a calculé, on peut le calculer en tenant compte de l'accélération. Accélération qui est supposée égale à 1G, la vitesse maximale du vaisseau, à peu près 2 tiers de la vitesse de la lumière. Donc si les grosses bouboules là, c'est du réservoir, je peux vous dire la coco qu'il y a dedans, ça envoie. Justement, on peut en déduire des choses à partir de ça. Il y a toute une analyse qu'on peut faire de ce vaisseau et des images qu'on voit du vaisseau. C'est pas le point ce soir, mais voyez que là, il y a une solution cohérente à ce qu'on voit. C'est tout à fait plausible. Parcourir 4,37 années-lumière en un petit peu moins de 6 ans de temps de vaisseau, de durée vaisseau, plus que 7 ans pour la durée terrestre, c'est parfaitement possible. Alors, autre conséquence qu'on voit parfois dans certains films, c'est quand les gars ils passent, alors là en vitesse lumière, mais disons quand ils vont un peu vite dans l'univers, genre Star Wars. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On y va plein pot et boum, les étoiles passent à côté. Quoi. Alors, ça veut représenter quelque chose un peu spectaculaire, genre on va plein pot. Mais la réalité, ce ne serait pas ça. Je n'élabore pas là-dessus, mais la direction d'une source de lumière va dépendre, la direction d'une source de lumière dépend de votre vitesse relative par rapport à cette source. Autrement dit, là il y a une source de lumière, je la vois dans cette direction, je suis fixe par rapport à elle. Maintenant je me déplace, alors évidemment la source est prête, donc je la vois changer de direction. Une source lointaine, je vois la direction d'une étoile. Je suis sur Terre, je vois l'étoile dans cette direction. Maintenant je me déplace, cette source de lumière lointaine, je la vois dans une autre direction, qui dépend de la vitesse relative entre mon déplacement et la vitesse que j'avais, l'écart de changement de vitesse que j'ai subi. Ça s'appelle aberration des angles. Cet effet-là a été mesuré pour la première fois, pour le comprendre, à la Einstein, le calculer exactement à la Einstein, je vais vous montrer ça, pas les calculs, mais les résultats, mais on peut le calculer dans les vitesses faibles, sans même imaginer que la relativité existe. Ça a été fait par Bradley en 1727, qui a observé ce qu'il appelle l'aberration des étoiles. Au fil de l'année, la direction d'une étoile lointaine dépendait du moment de l'année, dépendait de la position de la Terre sur son orbite. Plus exactement, était compréhensible si la Terre avait un changement de position sur son orbite, on voyait l'étoile faire une petite ellipse dans le ciel. Il en a déduit que la Terre tournait autour du Soleil, que c'était la preuve physique de la rotation de la Terre, de la révolution de la Terre autour du Soleil. L'effet d'aberration des angles. La direction d'une source de lumière dépend de votre vitesse, de l'écart de vitesse entre ce référentiel-ci et ce référentiel-là qui sont éventuellement mobiles. S'ils sont fixes, ça n'a pas d'intérêt, mais mobiles l'un par rapport à l'autre. Donc là, ils étaient fixes dans leur vaisseau, ils voient les étoiles, ils se déplacent dans leur vaisseau, ils ne les voient pas au même endroit. Où les voient-ils ? Alors voilà une simulation qui résulte d'un calcul, une simulation d'un collègue qui s'appelle Alain Riazulo, à l'Institut d'astronomie à Paris. Voilà un ciel synthétique, mais qui est un ciel réel, avec des étoiles réellement positionnées au bon endroit. On voit la constellation d'Orion ici, l'étoile Sirius, Aldébaran et la constellation des taureaux, et puis les Pléiades. C'est un ciel réel, simulé. On est sur Terre, on regarde le ciel, super, il fait beau. C'est des constellations qui verrent, on les voit en ce moment. Hein, même à Nantes, partout en France. Il y a une petite étoile minable au milieu, là, Epsilon de l'Éridan, on va la viser. C'est vers elle que l'on va. Notre vaisseau se dirige, pour l'instant il ne bouge pas, il va se diriger vers cette étoile. Plein pot. Alors voilà le ciel vu, si on ne bouge pas, si on est sur Terre, le ciel habituel. Enfin, si on ne bouge pas, si on est sur Terre, tel qu'on le voit sur Terre. Maintenant, si on se met à bouger par rapport à la Terre, et vite. Alors le même ciel, si on est à 10% de la vitesse de la lumière. Vous avez vu un changement ? Ou un peu. 20%, 30%, 40%. Quel changement vous voyez sur cette image ? Dans votre champ, mettons le champ de l'écran, il y a des étoiles qui rentrent. Il y a de nouvelles étoiles qui rentrent. Et en plus, on les voit plus lumineuses. Eh bien, le fait que les étoiles rentrent dans votre champ, c'est dû à l'aberration des angles. Vous vous déplacez vite par rapport aux étoiles, vers elles. Vous les voyez rentrer dans votre champ, la direction dans laquelle vous les voyez. Une étoile qui était en dehors de votre champ va rentrer dans votre champ. Et vous avez l'impression, ça vous donne quoi comme impression physiologique, si j'ose dire ? De reculer par rapport à la cible. Vous avez l'impression de reculer par rapport aux étoiles lointaines
parce que de nouvelles étoiles rentrent devant moi. D'habitude, quand je me recule, j'ai plus d'objets qui rentrent dans mon champ de vision quand je me recule par rapport à vous. Bah, c'est pas des objets, des humains. Ça donne l'impression de reculer par rapport aux étoiles lointaines alors que vous êtes en train de vous diriger plein pot vers les étoiles lointaines. Et vous les voyez plus brillantes aussi pour un effet qui est lié aussi à cet effet d'aberration des angles. La direction d'une source de lumière dépend de la vitesse relative. Et voilà, regardez comment ça fait, 0,8, 70%, 80%, 90% des lumières, va-va-voum, hein, le machin qui est là, c'est toute la Voie lactée. Il y a un spot lumineux énorme au plein centre, hein, pour se repérer avec les étoiles, c'est pas facile. C'est ça qu'il faut réaliser. Et à 99%, on ne résiste pas au plaisir, bah, toutes les étoiles, sauf l'unique étoile éventuellement, qui est exactement à 180 degrés de votre direction, dans votre dos exactement, pratiquement toutes sont rassemblées à l'avant et pas fortement amplifiées. Leur lumière est plus intense. En plus de ça, il y a un autre effet que vous connaissez aussi, dans le son, qu'on appelle effet Doppler, le fait que waouh, ça passe de l'aigu au grave, et que ce passage d'aigu au grave, pour la lumière, c'est le passage du bleu, l'aigu lumineux, au grave, le rouge lumineux, ou les longueurs d'onde courtes, aux longueurs d'onde grandes. Et donc, on devrait voir ce ciel beaucoup plus bleu, à la limite ultraviolet, à la limite rayons X éventuellement, si vous allez vraiment très très proche de la lumière, qu'il n'est en réalité, et vous allez le voir rassemblé vers l'avant par cet effet d'aberration. Donc le coup Star Wars, ça part sur le côté, non. Vous devrez avoir l'impression que les étoiles reculent ou que vous reculez par rapport aux étoiles. La pression physiologique statique, typique quand on voit des choses qui rentrent dans notre champ, c'est qu'on recule par rapport à la scène. Si vous voulez vous amuser avec ça, un jeu vidéo non trivial que je vous recommande, Slower Speed of Light. Un jeu vidéo qui est à la con, il faut se balader et ramasser des boules par terre. Niveau 3 ans. Quand c'est des boules par terre, on se balade, tchic, on prend une petite boule, on se balade, tchic, on prend une petite boule pour jouer avec la manette pour aller ramasser les petites boules par terre. Détail. Les vitesses de déplacement sont relativistes. La boule que vous voyez là, si vous êtes fixe, elle est là-bas. Donc quand vous voyez la boule là, elle n'est peut-être pas là en vrai. Donc pour la ramasser, c'est déjà un peu plus dur. Ça s'appelle aberration des angles. En plus, vous vous déplacez vite. Vous avez une durée de ramassage de boules, sinon vous avez perdu. Mais la durée, c'est la durée de l'arbitre qui lui est fixe sur le terrain. Vous bougez. Vite. À vous de vous démerder. Les boules sont lumineuses, pour que vous les voyez bien, ça se passe de nuit, c'est plus agréable. Boules lumineuses, et maîtrise de lumière, donc apparaissant plus bleues ou plus rouges, elles le sont en réalité. Éventuellement, sortant du spectre visible de vos yeux, qui étaient là dans votre petit vaisseau. Donc il y a des boules qui apparaissent ou disparaissent selon votre vitesse relative par rapport aux boules, dont la direction n'est pas la même, et la durée de ramassage, c'est celle de l'arbitre et pas celle que vous mesurez dans votre vaisseau qui se déplace vite. Sans boules à ramasser, bonne chance. Il y a d'autres effets, vous voyez que ce portique-là, demande un portique rectangulaire, il n'est pas rectangulaire, il a l'air déformé, encore une fois, par l'aberration des angles, l'aberration des directions. Et donc on voit, vous allez comme ça pouvoir jouer avec un petit système qui simule un environnement, avec un petit jeu à la con. Bon, en vous prenant la tête pas très longtemps, vous réussirez à avoir toutes les boules, hein. C'est pas si dur. Mais c'est pas trivial, c'est pas le jeu niveau 3 ans, il faut réfléchir un peu, il faut que je vise où est la boule vraiment, il faut que je vise la direction où je percevrai la boule alors qu'elle est ailleurs. Enfin, elle est physiquement ailleurs quand elle est fixe par rapport à elle. Quand je suis fixe par rapport à elle. Et je la perçois différemment par mon mouvement relatif. Pour finir, on va discuter un tout petit peu du temps élastique. Au sens... Il me reste 5 minutes là. Non, c'est 7 heures. C'est quoi? On doit finir à 7 heures? J'ai fait 55 heures. Oui, vous n'avez pas commencé. Bon, ben, je vais pas dire... on va le dire vite alors. Hein. Le temps élastique, c'est cette fois-ci une autre façon d'avoir cette dilatation des durées. Autre façon. Non plus la vitesse relative importante, mais s'approcher, alors là, on est sur une planète en orbite autour d'un trou noir, dans le film Interstellar, s'approcher d'un objet dont la gravité est très importante. On peut montrer qu'une horloge au sol et une autre horloge à côté, au sol aussi, synchronisée. On prend une des deux horloges, on la monte en altitude. On la redescend, elle a bougé, donc il y a déjà une vitesse relative. Alors ça, on sait mesurer, on sait calculer déjà. Mais le simple fait qu'elle ait changé d'altitude a aussi été un facteur de désynchronisation des deux horloges. La durée du voyage, si je veux dire, elle est deux fois différente. Au lieu d'avoir un voyage à la même altitude, ou changer d'altitude, elle est différente par la vitesse relative, et elle est différente par la différence d'altitude, qui est en fait la différence de, on dirait de façon newtonienne, de champ de pesanteur. En relativité générale, on dira la différence de courbure de l'espace-temps.
Parce que l'espace-temps qu'on a tissé tout à l'heure de lumière, vous avez compris que c'est ces échanges lumineux qui vont tisser l'espace-temps de lumière et vous permettre de vous repérer. Ça, c'est l'espace-temps plat, au sens pas de gravité dedans. C'est la relativité restreinte. Dans la relativité générale, l'espace-temps tissé de lumière est déformé par la présence de matière, dont celle des horloges. Bon, pas beaucoup, alors, ça va. Mais celle de tous les acteurs qui sont dedans. Et ce nouveau tissage, c'est encore la lumière qui le fait, mais ça sera plus des belles lignes droites, perpendiculaires, votre référentiel ne sera pas tout propre comme ça. Et ça a pour conséquence de modifier la perception des durées. Les durées mesurées ne sont pas les mêmes, encore une fois, pour une deuxième raison, en plus de la vitesse relative éventuelle, la gravité. Et ce que nous dit Romilly dans Interstellar, une heure sur cette planète équivaut à 7 ans sur Terre, c'est plausible. Ça donne un trou noir dont on peut estimer la masse et même la rotation sur lui-même, qui est un trou noir un peu extrême, 225 millions de masses solaires, qui tourne à sa vitesse de rotation, si on peut dire un sens à ça, ça n'a pas vraiment de sens comme ça, mais enfin dit comme ça, en tout cas brutalement, est très proche de celle de la lumière. Le trou noir tourne vraiment à une vitesse extraordinairement rapide sur lui-même. Donc ce n'est pas complètement délirant, même si ce n'est pas facile. Je montre, avant-dernière diapo, voilà ce qui se passe, les décalages temporels en microsecondes par jour en fonction de l'altitude, de la distance au centre de la Terre. En vert, le décalage gravitationnel, ça veut dire les horloges en haut qui sont à 15 000 km, elles retardent, elles ajoutent, il faut ajouter 35 microsecondes chaque jour pour qu'elles gardent leur synchronisation avec celle au sol. Par contre, si c'est une question de vitesse, la courbe rouge, ça veut dire c'est l'inverse, elles se déplacent par rapport à nous, elles ont des durées propres plus courtes, et donc là, il faut soustraire. Le bilan de tout ça, c'est la courbe bleue, c'est la correction que l'on doit apporter à toutes les ordres atomiques en orbite, dans les satellites du réseau GPS, du réseau Galileo, etc., pour que ça fonctionne. Parce que le satellite, alors je vais mettre l'ISS d'abord, mais les GPS, ils sont là, à 25 et 26 000 km, il y a en gros un décalage d'une quarantaine de microsecondes par jour. En 40 microsecondes, la lumière parcourt 12 km. Chaque jour, votre précision se dégrade de 12 km. Donc ça ne se vend pas, personne n'achète ça. On s'en fout, on prend des cartes, on y va tranquille. Pour que le GPS fonctionne, il est absolument fondamental et indispensable d'ajouter cette correction ici. Ça, c'est l'implémentation directe de la relativité générale et de la théorie des restreintes, de deux théories fondamentales de la physique du XXe siècle, pour que ça fonctionne. Pour la station spatiale internationale, à l'altitude où elle est, là, c'est plutôt l'inverse. Les cosmonautes qui sont en orbite dans l'ISS, les durées qu'ils mesurent sont typiquement 25 secondes, même 25 microsecondes par jour, plus courtes que les durées terrestres. Léonov, qui est resté 803 jours en orbite, a une durée, par rapport à l'hypothétique Léonov qui serait resté sur Terre, a vécu une durée 1/50 de seconde moins grande. Il a gagné 1/50 de seconde en 803 jours en orbite. Vous voyez, c'est pas venu pour rajeunir. Mais, et vous voyez que ça dépend de l'altitude, parce qu'on a deux effets, l'effet de vitesse relative et l'effet de gravitation, qui n'est pas le même. La gravitation, l'altitude et la vitesse relative dépend aussi de l'altitude. On doit être en orbite autour de la Terre. Un peu de lecture, mais il y en a beaucoup d'autres, de romans qui traitent correctement, plausiblement, les effets relativistes. Taux zéro de Poul Anderson, un vaisseau qui accélère tout le temps, qui peut aussi décélérer, mais le système de décélération tombe en panne. Donc ils accélèrent tout le temps. Taux zéro, taux, c'est souvent la lettre grecque que l'on utilise pour noter le temps propre. Taux zéro, ça veut dire temps propre nul. Ça veut dire la durée propre du vaisseau tend vers zéro, le rapport plutôt entre les durées propres, c'est pas la durée du vaisseau qui tend vers zéro, c'est le rapport entre les durées propres du vaisseau et les durées propres sur Terre tend vers zéro, ce qui veut dire que le facteur gamma tend vers l'infini. La vitesse du vaisseau tend vers la vitesse de la lumière. Très 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 proche. L'aube d'acier Charles Strauss, plein de choses intéressantes aussi, il essaie de faire des choses en gardant la physique relativiste cohérente. La guerre éternelle aussi, du Haldeman, pareil, hein, c'est une guerre qui dure longtemps parce que le gars, en gros, il va faire son service militaire 6 mois, sauf que c'est 6 mois dans un vaisseau qui va après la tête de la lumière. Il se passe 200 ans sur Terre. Et ça bastonne pendant 6 mois, peut-être dans les champs, mais c'est pas long. Pour la Terre, ça dure longtemps. Une guerre qui peut durer 6 mois en temps des vaisseaux qui se battent. Et je mets cette citation que j'aime beaucoup de Charles Strauss dans le glacier, qui est une créature, un être, enfin, une intelligence artificielle, appelez-la comme vous voulez, qui s'appelle l'Escaton, et qui dit lui-même qu'il n'est pas un dieu. Mais il recommande aux humains de ne pas déconner dans son cône de lumière du passé, c'est-à-dire de violer la causalité, sinon il va s'occuper d'eux.
parce que lui, il est capable de se déplacer dans le temps, et il ne veut pas que les autres fassent ça. Et donc ça, il essaie, ça, ça est explicitement implémenté, le fait qu'en physique fondamentale, en fait, on ne peut pas violer la causalité, l'enchaînement cause-effet, ça c'est indépendant de l'observateur. Si un événement est la cause d'un autre, et la cause d'un autre, il sera la cause de l'autre pour tous les observateurs. Si deux événements sont l'un avant l'autre, sans relation causale, il existe un observateur pour lequel ils seront l'un après l'autre. La chronologie, ça n'existe pas. La causalité, ça existe et c'est préservé par la relativité restreinte et la relativité générale dans une large mesure. Ah, parfait, mais il y a des astuces. Voyage dans le temps, non, plus tard. Enfin, peut-être toujours. Je vais m'arrêter là, ça fait pile une heure que je parle, il est déjà 7h10, donc du coup ça a mis 10 minutes qu'on a vu pour la table ronde suivante, excusez-moi. Merci de votre attention, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués.